Bonjour à tous. Comment favoriser l'apprentissage? Concentration, attention, sommeil, de quoi les enfants ont-ils besoin pour mieux apprendre? Le ministre Jean-Michel Blanquer a fait du primaire la mère de toutes les batailles et a chargé Stanislas Dehaene, le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, de proposer des pistes de réforme. Professeur au Collège de France, le neuroscientifique présente aujourd'hui dans un livre « Apprendre » chez Odile Jacob des éléments de réponse dont il discutera à partir de 12h55 avec le documentariste Frédéric Castagnède, réalisateur de Demain l'école sur Arte. Mais d'abord, des nouvelles de la Mostra de Venise avec Michel Simon et l'art de l'enfance avec Marie Desplechin et Claude Ponty, deux auteurs majeurs de la littérature jeunesse réunis pour un beau livre Enfance au pluriel publié par l'École des loisirs où ils dessinent en quelques traits l'enfance d'une soixantaine de personnalités. Un illustrateur, une auteure, ils sont tous deux nos invités à écouter tout de suite sur France Culture jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Jesbert.
Qui a été le premier enfant de l'humanité? Ève, peut-être, mais non, puisqu'elle a été créée femme immédiatement. Ce qui est sûr, pas d'adulte sans enfant. Ce qui nous dit à quel point, à vos yeux, c'est un âge précieux. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Et bonjour Claude Ponty.
Bonjour.
Une soixantaine de portraits d'enfants rassemblés dans ce livre, des inventeurs, des artistes, des figures bibliques ou légendaires, des enfants exceptionnels devenus grands ou des enfants ordinaires, Marie Desplechin, devenus exceptionnellement grands?
Mais c'est sûr qu'on les a relus à la lumière de l'âge adulte, excepté un ou deux, par exemple, comme Iqbal Massi, qui est mort à 12 ans, donc on ne sait pas l'adulte qui serait devenu, mais son enfance était tout son destin. Donc, je ne peux pas répondre à cette question.
Parce que l'idée est née de votre main gauche à vous, Claude Ponty.
Elle a été assez longue à formuler précisément. L'idée de base, c'est pas tellement que les gens aient pu devenir des adultes remarquables, c'était justement que, remarquables ou pas, c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est que quand ils étaient enfants, ils aient vécu quelque chose de ou de dramatique, ou d'exaltant, ou de plaisant, ou de très 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 désagréable, et qu'ils aient eu la force, le courage, la volonté de surmonter ça, et parce qu'ils ont fait à ce moment-là de changer notre monde à nous. Ça en fait pas forcément des héros adultes. Il y en a qui ont jamais su qu'ils avaient fait quelque chose d'intéressant. Et on est parti de là, en fait. Pas vraiment de l'adulte. Évidemment, il fallait bien raconter un petit peu après ce qu'il devenait, mais c'était pas l'essentiel.
Et vous, quels enfants étiez-vous? Tout ce cheminement que vous évoquez a dû vous pousser à réfléchir à ce qui a pu être dans vos vies, ce point de bascule, celui qui a fait de vous une écrivaine aujourd'hui, Marie Desplechin, de vous un dessinateur, illustrateur, Claude Ponty.
Comme on n'arrête pas de la reconstruire, sa propre enfance, on se la raconte à longueur de vie, donc j'en sais rien. En fait, je préférais laisser à quelqu'un d'autre le soin de le faire. Oui, après, il y a un tas de choses qui déterminent ce que vous allez être, mais il y a tellement d'embranchements dans une existence qui font que vous irez là ou là, c'est difficile à dire. Hein. Mais un seul événement, non, ce serait trop romanesque.
Oui, je peux répondre de la même façon, c'est-à-dire que j'ai eu des choses qui étaient relativement dramatiques ou difficiles, mais plusieurs fois, et en ce qui me concerne, par exemple, c'est pas du tout ce qui a fait de moi quelqu'un qui peignait ou qui dessine. J'étais à 7 ans, j'étais décidé à être peintre, et rien pouvait m'empêcher de le faire. Rien ni personne, c'est exactement ce qui s'est produit. Et je vois pas très bien les connexions avec ce qui a pu m'arriver à moi. Non, je suis pas un
Alan Turney. Quelqu'un d'autre le ferait pour toi, je pense. C'est-à-dire, par exemple, tu me dirais, raconte un truc de Claude Ponty en 1500 signes, je pourrais le faire. Tu serais sans doute pas d'accord.
Oui. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs?
Parce que c'était pas l'intérêt. Je pense qu'on était, c'était très intéressant dans ce travail. Je pense qu'on partage un sentiment d'émerveillement en fait pour ces histoires-là. C'est-à-dire qu'on est extrêmement en empathie, sans doute dû à deux puissantes névroses conjuguées dans ce livre, qui fait qu'on était vraiment très solidaires de ces histoires d'enfants. Ouais. Et quand on les racontait à l'autre ou que Claude les dessinait, on était très émus par ces mômes. Voilà.
Ça nous est pas venu à l'esprit du tout de parler de nous.
Ah ben non, ça aurait été pas terrible.
Alors vous en parlez quand même un tout petit peu dans la présentation qui est faite de vous deux en ouverture et en fermeture de l'album. Marie Desplechin, albumiste, née en 1959. C'est l'été, nous sommes en vacances au bord de la mer, en Belgique. Mes parents ont loué une petite maison, je suis dans le jardin, dans mon fameux maillot de bain, bleu, blanc, rouge. Mon père prend une photo, je me demande quel projet formidable j'ai en tête à l'instant. Planter un arbre, fouiller une cave, construire une cabane, faire flotter un radeau, cuire de la terre, ramasser des cailloux, boire une limonade ou simplement partir, faire un tour en voiture à pédale. Je ressemble à un chien qui vient de flairer une piste et s'est mis à l'arrêt. Parce que ce petit texte est précédé d'une photo de vous, le regard déterminé, même si toutes ces histoires d'enfants, vous l'évoquez, se font ou seront sans déterminisme. C'est en tout cas pas comme ça que vous les avez imaginées. Vous, Claude Ponty, sur la photo, vous êtes déjà l'enfant sage qu'on retrouve aujourd'hui dans ce studio, en classe de CP.
C'est la photo officielle.
De l'école. Vous tenez déjà un pinceau à la main, vous dessinez déjà, et vous dites ce que vous partagez avec Marie à cet instant-là, c'est cette détermination non consciente encore d'être ce que vous êtes peut-être devenu.
Oui, ce qui est sûr, c'est que je suis un enfant furieux. Parce que le photographe, alors que je suis gaucher, m'a obligé à tenir le pinceau de la main droite, parce qu'il supportait pas les gauchers. Et ce que j'aime dans ces deux photos, c'est la détermination qu'on a tous les deux, déjà à cet âge-là.
Écrire pour la jeunesse, dessiner pour la jeunesse, c'est forcément réveiller un peu sa part d'enfance. Qu'est-ce qu'on gagnerait tous à se rapprocher de notre enfance? Est-ce qu'on y retrouverait une créativité oubliée, une légèreté, une insouciance perdue? Une seule règle dans la vie, s'amuser. Pour Jean-Luc Fromental, conte, fable, récit de voyage, bande dessinée, vous le connaissez peut-être l'un et l'autre, il multiplie les formes et raconte des histoires publiées chez Helium ou encore à l'école des loisirs. Serez-vous d'accord avec son parti pris?
Moi, ma première mission, comme disait mon ami Hervé Prudhon, qui vient de mourir, l'écrivain de romans noirs, elle est de ne pas offenser la littérature. C'est-à-dire que ce que je sers en premier, c'est le goût de la lecture, c'est ma première défense. La deuxième mission, c'est qu'on sait que la vie est un drame, mais qu'elle contient un élément très puissant, qui est l'élément du jeu. Tous les auteurs que j'aime, que ça soit Stevenson, Evelyn Waugh, Graham Greene, sur un mode plus léger, P.G. Woodhouse, sont des gens qui ont compris ça et qui ont gardé dans leurs romans, les plus graves, cet élément du jeu. Donc la jeunesse permet de déployer ça et de le mettre en avant. Donc il y a quelque chose de très agréable dans le fait d'écrire pour les enfants, c'est qu'on écrit pour l'enfant qui est soi. Et on pense pas, j'espère, aux petits-enfants tels qu'ils sont découpés par... Moi, j'ai un très bon éditeur qui est Helium, Sophie Giraud, qui est une très bonne éditrice et qui fait pas ça. Mais il y a beaucoup d'éditeurs qui découpent en tranches, qui disent c'est pour des enfants de 4 à 5 ans et demi. Et ensuite, on a la tranche 6, 8 et quart, etc. Bien sûr que ça marche pas comme ça. Bien sûr que les enfants sont complètement inégaux. Je connais des enfants de 8 ans qui en sont à leur cinquième Harry Potter et des enfants de 20 ans qui liront jamais un livre. Donc, nous, on travaille à l'aveugle là-dedans. Et le seul enfant qu'il faut satisfaire, à mon avis, c'est, comme dit très drôlement mon ami Posy Simmons, l'enfant intérieur.
Vous travaillez à l'aveugle tous les deux aussi.
Ben, il a raison sur quelque chose, c'est qu'on travaille pour soi. Je pense que quand j'écris les textes, en fait, c'est à Claude que je m'adresse ou à moi. Après, il y a tout un travail quand même qui est surtout sur ce type de texte où il y a quand même pas mal de boulot de documentation. C'est comment vous allez faire comprendre à quelqu'un qui a pas forcément tous les prérequis, qui a voilà, comment vous allez lui donner quelque chose qui est vraiment bien mais qui lui soit accessible. Donc il y a ces deux parts. Après, la part, mais c'est pas de la démagogie ou c'est se faire entendre. Et cette part-là, quand on travaille pour les mômes, quand même, non?
Claude Ponty.
Non, Claude, non, c'est pas ça.
Non, y a du vocabulaire là-dedans qui est pas le mien du tout. J'ai pas de mission, j'ai pas de message, j'ai pas de respect pour ci ou pour ça. Je m'adresse pas à l'enfant que j'étais. Par contre, quand je fais un livre, parmi les composantes qui rendent nécessaire ce livre, il faut que ce soit un livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. Mais c'est une toute petite partie de la chose. Et je suis désolé que je fais des livres pour enfants. Je pense aux enfants, ou plutôt à l'enfance. Et je pense à tout ce qu'il peut y avoir de général pour le réduire au particulier, pour essayer de m'adresser au plus profond de l'enfant. Mais c'est parce que je passe par un chemin qui est que, quel que soit le livre que je fais, il est fait pour une personne qui est en construction. Et c'est la chose à respecter pour moi. que le lecteur, l'enfant, n'ait aucun empêchement à sa construction et qu'il même qu'il voit que envers et contre tout, tout est possible. Donc on a des positions très 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 différentes.
C'est pas protéger, c'est pas réparer des enfances, mais c'est quand même l'idée de créer à travers vos albums un cocon dans lequel l'enfant va pouvoir se construire à son rythme, avec son imagination, son imaginaire.
Les enfants petits n'ont pas beaucoup à se réparer puisqu'ils passent leur temps à essayer. Et ce qui est plus important, c'est de comprendre que essayer c'est bien, rater c'est bien aussi, et que ce qu'il faut, c'est recommencer et jamais se laisser faire quand on veut faire quelque chose et que on essaye de nous en empêcher. Donc, la stratégie sociale classique, c'est d'essayer de persuader l'enfant pour qu'il pense lui-même qu'il n'est pas capable. Alors moi, je fais le contraire. J'essaye de l'aider à penser lui-même, du bien et qu'il est capable. Ça ne passe pas du tout par les mêmes chemins que ce monsieur-là.
Que Jean-Luc Fromental. Il y a des figures célèbres dans ce livre, autant couleur, dès l'enfance, comme Frida Kahlo dans sa Maison Bleue, d'autres en noir et blanc, comme le pianiste Petrucciani, représenté ici en miniature par vous, Claude Ponti, lui claudiquant sur les touches de son piano, empêché de grandir par la maladie des os de verre, ce que vous nous racontez, Marie Desplechin. Il est resté presque toute sa vie un pianiste géant à taille d'enfant. Comment avez-vous procédé pour dessiner ces enfants que Marie Desplechin nous raconte une
Et
page.
En partie, Claude, je vous interromps, parce qu'une partie des textes sont ceux de Claude.
Ah, ça, je ne savais pas que vous aviez partagé.
Vous ne pouviez pas le savoir, on ne l'a pas dit.
Ben voilà.
Pour Petrucciani, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire dans le géant enfant. Alors là, on est plutôt dans des questions de taille et de fragilité physique. Après, les images naissent. Une partie de ma vie, j'étais dessinateur de presse. Donc, avoir un article, savoir le condenser, arriver à sortir l'essentiel de la chose pour faire un seul dessin, ça, je sais à peu près faire. Après, il faut éliminer tous les automatismes, tous les trucs qui viennent, enfin, tous les trucs qui sont des trucs. Mais on saute toute la part de discussion qu'on a pu avoir Marie et moi, c'est-à-dire que déjà complètement d'accord et en phase sur le projet, et puis pour arriver à décider qu'on prenait telle ou telle personne, c'est qu'on était déjà arrivé au nœud de l'affaire. On savait exactement où est-ce qu'il fallait porter le regard. Et donc, après, ça rend le dessin un peu plus facile. Mais je peux pas trop expliquer comment je fais des dessins, parce que je les fais, quoi.
C'est jamais facile de parler dessin à la radio, de raconter ensemble. Mais est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'Elisabeth Vigée-Lebrun, à partir de vos textes, Marie Desplechin, et de l'illustration que vous en avez faite?
Bah, c'est la fille d'un peintre qui était renommée, disons, qui faisait partie de l'Académie officielle de peinture, et elle est rigolote parce qu'elle est comme sont des gosses maintenant, et comme sans doute Tété ou d'autres, elle dessinait dans les marges de ses cahiers, elle dessinait tout le temps, elle a été en internat, elle a été beaucoup élevée loin de ses parents, comme un tas d'enfants d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, qui est rare, ce sont les enfants qui grandissent avec leurs parents, et elle dessinait sans cesse, et en fait à 15 ans, elle est peintre. Donc elle va perdre son père, arrêter de peindre un moment, voilà, et recommencer la peinture. Et à 19 ans, c'est un peintre établi, renommé. Après, il y a sa vie d'adulte. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'elle ressemble à un tas de mômes maintenant.
Oui, il faut dire quand même que ça se passe à l'époque de Louis XVI.
Oui, pardon. Oui, c'est ça.
Parce que
ça, et la Révolution, c'est 89.
Ça devient un peu plus impressionnant.
Voilà.
Quant à l'époque, oui.
Sur un autoportrait d'elle, justement, Claude Ponti, vous avez apporté votre subjectivité. Quelle est-elle?
Alors, j'ai pris un autoportrait d'elle. Il faut dire qu'il est absolument fabuleux. Cette femme avait des ressources techniques incroyables. Elle était capable d'énormément de choses de ce point de vue-là, tout en restant extrêmement intéressante et en ayant des sujets assez différents de la masculinité traditionnelle. Elle a émigré, elle a changé. Chaque fois qu'elle arrivait quelque part, au bout de très peu de temps, elle reprenait son travail et elle n'avait rien perdu de son niveau. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de rajouter sur le tableau, elle, petite fille, qui grimpe, qui s'assoit sur la palette et qui a ses petits dessins un petit peu pas trop réussis pour montrer... parce que c'est un génie, c'est un génie de la peinture.
Ah ouais, il y en a une ou deux, il y a Sophie Germain, parce que c'est des gens vers lesquels on pouvait être attiré sans savoir exactement, voilà, sans être entré dans le détail de leur construction. Sophie Germain, c'est ahurissant.
Ou Ada Lovelace. Il faut que je rectifie un truc. C'est une génie.
Oui, c'est vrai. Ouais, bah, on parle en français. Hein. En fait, ce genre d'exercice de faire des enfants, c'est un exercice que d'autres gens ont fait, qui est une sorte de standard. Et souvent, on prend que des gens qui sont déjà très connus. Voilà, il n'y a que cela. Mais en fait, du coup, le monde, il est très restreint. Vous avez ces gens connus. Du coup, c'est le club des gens inaccessibles, très connus. Mmh. Mais le monde, il n'est pas comme ça. Et puis comme ça, il est ennuyeux. Et ce qui est amusant, c'est de se rendre compte qu'en fait, un tas de gens font ce monde-là. Et l'idée d'avoir mélangé des gens que nous, on aimait ou qu'on avait rencontrés au cours de notre vie, et de rassembler tous ces gens-là à même échelle, ça montre plus le monde tel qu'il est.
Oui, sauf qu'un exemple assez probant, c'est ce petit garçon noir qui est esclave et décide, comme ça, parce qu'il a réfléchi, d'inséminer lui-même la... La vanille, et chose qu'on n'arrivait pas à faire, donc on n'arrivait pas à produire. Et il a une vie, il est tombé dans l'oubli complètement. Il a été récompensé de manière assez sordide, puisque quand il a été libéré, on l'a appelé Albius, qui veut dire blanc. C'est-à-dire que la récompense suprême à l'époque pour un noir, c'est de s'appeler blanc, dans l'esprit des blancs. Mais toute la bonne vanille, c'est grâce à lui.
Et la fortune.
Le flot de vanille qui envahit le monde, c'est grâce à lui. Et la fortune de certaines entreprises, de certains blancs, c'est grâce à lui. Donc, je trouve que entre une star de l'opéra, quelqu'un qui a réussi, qui a 3 octaves ou 4 octaves, qui peut faire des choses extraordinaires, et lui, je suis d'accord avec Marie, ils sont sur la même étagère.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Un illustrateur, dessinateur et une écrivaine, romancière, scénariste, déterminée l'un et l'autre, mais qui nous raconte l'enfance et le devenir adulte sans déterminisme, comme le chantait si bien Maxime Le Forestier.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Être né quelque part et tous ces enfants que vous nous racontez ne sont pas nés au même endroit ni avec les mêmes chances dans la vie, Marie Desplechin. Et c'est aussi ce que ce livre nous rappelle, c'est qu'on ne part pas tous avec les mêmes possibilités.
Oui, mais il y a une puissance dans l'enfance. Par exemple, prenez la comtesse de Ségur qui naît dans une famille richissime, c'est la filleule du tsar. Et prenez Iqbal Massi, qui est un enfant qui est vendu par ses parents à l'âge de 4 ans pour rembourser les dettes et qui va travailler dans une usine de tapis. Et ben, dans l'enfance, ils sont égaux. Parce qu'elle, elle a une mère qui la martyrise. Alors, à côté de ça, elle a une enfance dorée par certains côtés, mais elle doit être très malheureuse par d'autres côtés. Et cet enfant, mais ce qui va leur arriver est absolument comparable. Il n'y a pas de... On ne peut pas le penser comme socialement hiérarchisé.
Claude Ponty.
Il est assez courant de dire, quand on raconte des histoires, le « on », c'est pas moi, que il n'a pas eu d'enfance, ça a été terrible, on l'a privé de son enfance et tout. c'est stupide. Quelle que soit l'enfance qu'on a eue, on a une enfance. Et comme dit Marie, cette enfance, c'est une force, c'est une puissance. C'est évident, c'est-à-dire que si les enfants n'étaient pas capables de survivre à tout ce qu'on leur fait subir depuis des centaines de milliers d'années, il n'y aurait plus d'humanité. Tout simplement, on est une espèce qui aurait disparu. Donc, la force, la puissance, la réalité, elle est dans l'enfance.
Est-ce que le passage à l'âge adulte se joue aussi dans le refus d'un certain fatalisme ou d'une certaine fatalité, Claude Ponty, dans cette idée de colère, voire de révolte ?
Je sais pas. J'ai toujours été déterminé à être ce que je voulais être. J'ai jamais eu le sentiment de devenir adulte. J'ai pas encore trouvé de terminologie, c'est-à-dire que peut-être un peu mature, quoi. Mais adulte, ça me fait penser aux enfants qui sont devenus adultes mais infantiles, c'est-à-dire qu'ils veulent une grosse voiture, qu'ils veulent des écrans de télévision gigantesques, c'est-à-dire que ils n'ont pas encore compris que quand ils étaient petits, leurs parents étaient des géants et que ils voulaient juste les choses trop grandes parce qu'ils n'ont pas réussi à compenser ce truc ou en tout cas à le dépasser. Que être adulte, c'est juste avoir grandi, quoi. C'est comme dit Marie, cet enfant, c'est notre point de départ. Moi, je fais tout le temps la blague, voilà, je suis un gland. Je suis un gland, petit, et bon, évidemment, je vais devenir un chêne. Je vais tout faire pour devenir un chêne. J'ai pas envie de rester toute ma vie un gland. Voilà, ça me paraît aussi simple que ça.
Ni un poussin. À propos de révolte intérieure, je voulais vous faire entendre, avant de se quitter, la voix aussi du génial Mario Ramos, le père belge de Louis et Tu, décédé en 2012.
C'était quelqu'un de formidable.
Ah oui.
Le dessin fait passer une émotion tout de suite, un dessin parle, surtout quand on utilise les animaux. C'est un peu le principe de La Fontaine, on utilise les animaux pour parler des travers de l'être humain. Et puis les animaux ont beaucoup d'humour. C'est tout part des carnets de croquis. Je pars un peu dans tous les sens. À ce moment-là, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de recherche précise. Tout ce qui me passe par la tête sort. Et puis, après un certain temps, je refeuillette ces carnets et alors sort tout de suite certaines idées qui sont parlantes. Et si elles me parlent, elles peuvent parler aux autres aussi. Je m'intéresse beaucoup au monde de l'enfance, parce que quand on fait le livre pour enfants, on retrouve des choses profondes enfouies en nous et c'est là qu'il se passe des choses vraiment très importantes. Mais je n'idéalise pas ça du tout. Hein. Ils peuvent être très cruels, les enfants. Tout est là. Mais ce qui caractérise l'enfant, c'est une révolte d'abord. Et j'essaye de garder dans ma vie cette âme d'enfant pour me révolter encore contre toutes ces choses qu'on nous présente comme établies. Une révolte permanente qui est une révolte constructive, pas destructive.
Voilà, et des révoltes, il y en a presque à toutes les pages, même au-delà des figures, du courage, de lutte ou de la rébellion que vous avez pu retracer dans ce livre, qui ont lutté pour des valeurs de tolérance, comme Louise Michel, qui a sa place aussi dans cette galerie de portraits. Vous avez cherché ça, ce petit grain de révolte en chacun des enfants.
Je crois qu'on ne l'a pas cherché. Je crois que c'est que on était séduits. Cette personne, elle était séduisante avec ça. L'enfance de Louise Michel, c'est tout Louise Michel. Là, on a choisi une des histoires de Louise Michel enfant, mais c'est incroyable la manière dont elle a été élevée dans ce château par un grand-père qui était peut-être son père. Enfin bon, elle était extraordinaire. Donc on n'a pas cherché la révolte, avait Louise Michel.
Il y a de la révolte, de toute façon.
Mais n'importe quel enfant, quand vous parlez avec eux, il y a un sentiment qui est très très puissant, qui est juste et injuste. Parce que on le connaît des enfants autour de nous. Oh, c'est pas juste. Mais c'est pas un sentiment bête. Hein, c'est un sentiment vraiment d'abord vis-à-vis d'eux, puis vis-à-vis des autres. Et un enfant, il comprend pas qu'il y ait quelqu'un qui dorme dans la rue. Ça lui jusqu'à ce que il se soit adultisé un petit peu. C'est une chose qui saisit pas, puisqu'il y a une place forcément quelque part pour cette personne. Donc c'est pas normal. Donc voilà. Et ça, c'est
tout ce qui est pas bon dans l'adulte, c'est parce qu'on l'a appris à l'enfant.
Après, ce que disait Mario Ramos, c'était sur la cruauté, et c'est vrai qu'il y a une cruauté dans l'enfance.
Oui, mais il faudra trouver un autre mot, parce que
c'est cruauté, c'est pas méchanceté,
oui,
peut-être.
Il n'y a pas de volonté.
Il y a peut-être une différence là, c'est une cruauté pulsionnelle qui existe effectivement, et quand elle est conservée chez l'adulte, c'est-à-dire qu'elle subsiste, mais alors à ce moment-là, elle devient infantile, et plus infantine, elle est épouvantable. Chez l'enfant, elle s'amende, elle peut se corriger en 3 secondes, voilà.
Les enfances de Claude Ponty et de Marie Desplechin. Votre album vient de paraître à l'École des loisirs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
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 Midi 26 sur France Culture. On court maintenant où on vole vers Venise à l'occasion de la 75e édition du Festival de cinéma des éclats de Mostra à intervalles réguliers dans la grande table avec notre critique Michel Simon. Bonjour.
Bonjour.
Et on ouvre avec un crépuscule, celui du réalisateur du Fils de Saul.
C'est un film qui a été extrêmement discuté. Il y a des partisans, il y a des adversaires. Je me range tout de suite du côté des partisans. C'est un très grand film qui est en fait assez parallèle au Fils de Saul. Évidemment, rien n'est comparable à l'Holocauste, mais il s'agit de la fin de l'Empire austro-hongrois. L'action se passe en 1913, se termine dans les tranchées. C'est l'écroulement d'une société à travers le personnage d'une femme qui est à la recherche de son frère, qui veut travailler chez les puisque ses parents possédaient une entreprise de chapeaux et elle essaye de trouver un travail dans cette ancienne propriété de ses parents et elle cherche ce frère comme dans le Fils de Saul, l'homme était avec son fils. C'est un film d'abord d'une beauté visuelle absolument stupéfiante, c'est un film qui est une sorte de labyrinthe à la façon du Fils de Saul, la caméra se bouge et découvre des décors tout à fait fantasmatiques qui révèlent en même temps la corruption, l'écroulement de toute une société. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, je pense que c'est un très grand film, je ne sais pas ce que fera le jury, mais en tout cas il devrait être au palmarès. Et puis il faut dire aussi que le film de Julian Schnabel, À la porte de l'éternité, qui choisit de traiter de la vie de Van Gogh à Arles puis à Auvers-sur-Oise, me paraît tout à fait passionnant parce que Julian Schnabel évidemment est un grand artiste contemporain et donc il parle vraiment d'un peintre comme un peintre. Le Van Gogh de Piala était un chef-d'œuvre absolu, mais à mon avis il ne parlait pas tellement de Van Gogh mais surtout de Piala, tandis que ce film vraiment par des dialogues, par des méditations, le Van Gogh est joué par Willem Dafoe, on entre vraiment à la fois dans le psychisme et dans la création du peintre néerlandais.
Et ça s'appelle À la porte de l'éternité. Oui, un mot. Des films vus, ça s'appelle À la porte de l'éternité, hein, le film de Julian Schnabel.
C'est ça, À la porte de l'éternité, écrit par Jean-Claude Carrière avec Julian Schnabel. Et puis j'ai été déçu par le film de Mike Leigh, Peter Lou, qui est une reconstitution historique d'un massacre de milliers de manifestants à Manchester en 1819. Le film, malheureusement, est assez engoncé. Turner, il y avait déjà un peu de cela dans Turner. Mike Leigh a perdu sa verve. Il a encore le sens des trognes, le sens des visages. Il choisit très bien les comédiens, même les seconds rôles. Mais malheureusement, le film est très didactique, très démonstratif. Et pour moi, qui suis un admirateur inconditionnel de Mike Leigh, mais cette fois-ci, je ne suis pas un inconditionnel. Et puis, il faudrait parler aussi de l'œuvre sans auteur, le retour de Florian Heckel von Donnersmarck, l'auteur de La vie des autres, sur l'Europe de l'Est, sur l'Allemagne de l'Est pendant la Stasi, pendant le régime communiste. Ici, c'est une sorte de feuilleton assez télévisuel où il nous raconte à la fois le nazisme, il nous raconte aussi le communisme et puis l'après-communisme. C'est un film assez conventionnel qui plaît beaucoup au public. Le public le met en tête des films jusqu'à maintenant. Moi, j'étais un peu déçu parce qu'il s'attaque au réalisme socialiste à la soviétique, mais en fait, le film est assez réaliste socialiste lui-même.
Merci beaucoup, Michel Simon. On vous retrouve vendredi pour un dernier éclat de Mostra, puisque le palmarès sera rendu ce week-end. On reviendra peut-être ensemble avec un regard sur cette 75e édition et un paradoxe que vous soulignez. Beaucoup de films qui se passent dans le passé et beaucoup de réalisateurs cinéastes qui, dans les micros des médias, parlent de l'actualité. Merci beaucoup Michel Simon. France Culture, il est midi et demi.